Chapitre 1. Le désert des pluies. Malta plongea sa pagaie de fortune dans l'eau miroitante et donna une forte poussée. La petite embarcation se mit timidement en mouvement. D'un geste vif, elle fit passer la planche de cèdre sur l'autre bord, en grimaçant à la vue des perles d'eau qui s'égouttaient dans le bateau. C'était inévitable. Elle n'avait que cette planche en guise d'aviron, et ramer d'un seul bord n'aboutirait qu'à les faire tourner en rond. Elle s'interdit de penser que les gouttes d'acide pouvaient ronger en ce moment même les bordées sous leurs pieds. Quelques gouttes ne risquaient tout de même pas de causer de gros dégâts. Elle espérait que le métal poudré de blanc qui plaquait la coque empêcherait que les eaux du fleuve ne la dévorent, mais là non plus, il n'y avait aucune certitude. Elle chassa cette idée. Il n'avait pas un long chemin à faire. Elle était toute courbattue. Elle avait ramé la nuit durant pour tenter de rejoindre Trois Nousses. Ses muscles harassés tremblaient à chaque effort. « Ce n'est plus très loin », se répéta-t-elle. Leur progression avait été lente, un vrai supplice. Elle avait une migraine atroce, mais le pire, c'était ce picotement à son front autour de sa blessure qui cicatrisait. Quand elle n'avait pas de main libre pour se gratter, c'était alors que cela la démangeait le plus. Elle manœuvrait le canot entre les troncs immenses et les racines, longues et grêles comme des pattes d'araignée, qui bordaient le fleuve. Là, sous le dais de la forêt des pluies, le ciel nocturne avec ses étoiles ne se laissait que rarement entrevoir. Cependant, par intermittence, un scintillement lui faisait signe à travers les frondaisons. Les lumières de la cité dans les arbres, Trois Nousses, la guidaient vers la chaleur, la sécurité et surtout vers le repos. Les ombres étaient encore épaisses autour d'elle, mais le chant des oiseaux dans le faîte des arbres lui disait qu'à l'est, l'aube éclairait le ciel. Le jour ne percerait que plus tard le dais feuillu, et encore ne serait-ce qu'en puits de clarté dans un semblant de soleil glauque. Là où le fleuve se frayait un chemin entre les arbres touffus, la lumière argenterait les eaux laiteuses du large chenal. Le nez du canot accrocha soudain une racine submergée. Encore ! Malta se mordit la langue pour retenir une exclamation d'exaspération. Avancer dans ces bas-fonds boisés revenait à se faufiler à travers un labyrinthe inondé. De temps à autre, des débris flottants ou des racines invisibles l'avaient détourné de sa route. Les lumières qui pâlissaient au loin paraissaient à peine plus proches qu'au moment du départ. Malta se déporta sur le côté et se pencha par-dessus bord pour tâter de sa pagaie l'obstacle en cause. Avec un grognement, elle poussa et libéra le bateau. Elle replongea la planche et le canot contourna la racine sournoise.
« Pourquoi ne pagaillez-vous pas là-bas, où les arbres sont plus clairsemés ?»
demanda le gouverneur. Le souverain déchu de Jamelia était assis à l'avant, genoux sous le menton, tandis que sa compagne Keki était blottie craintivement à l'arrière. Malta ne tourna pas la tête. Elle répondit d'un ton froid.
« Quand vous serez disposé à prendre une planche et à m'aider à pagayer ou à manœuvrer, vous pourrez avoir votre mot à dire. Jusque-là, fermez-la. »
Elle en avait par-dessus la tête des poses autoritaires de ce gamin gouverneur, totalement incapable du moindre effort physique.
« Le premier imbécile venu verrait qu'il y a moins d'obstacles là-bas, on irait beaucoup plus vite. »«
Ah, beaucoup plus vite !» répéta Malta sarcastique. « Surtout si le courant nous entraîne au milieu du fleuve. »
Le gouverneur reprit son souffle, l'air excédé.
« Puisque nous sommes en amont, il me semble à moi que le courant va dans notre sens. On pourra en profiter pour qu'il nous porte où nous allons, et on arriverait beaucoup plus tôt. On pourrait aussi perdre complètement le contrôle du bateau et voir la ville nous passer sous le nez. »«
C'est encore loin !»
gémit pitoyablement Keki.
« Vous pouvez le constater aussi bien que moi, »
rétorqua Malta. Une goutte d'eau tomba sur son genou alors qu'elle changeait la pagaie de côté. Elle sentit un picotement, puis une démangeaison et une brûlure. Elle prit le soin de tamponner sa peau avec l'ourlet déchiqueté et crasseux de sa robe qui laissa des traînées sur son genou. Depuis son long périple dans les couloirs et les salles de la cité des anciens la veille, il s'était passé tant de choses. Il semblait que des centaines de nuits se fussent écoulées. Quand elle cherchait à se rappeler les événements, tout se bousculait dans sa tête. Elle s'était aventurée dans les galeries pour affronter le dragon, le forcer à laisser Rain en paix. Mais il y avait eu le tremblement de terre, et puis elle avait découvert l'animal. Là, les fils de ses souvenirs s'en mêlaient inextricablement. Le dragon dans son cocon avait ouvert l'esprit de Malta à toute la mémoire engrangée dans cette salle. Elle avait été submergée par les vies de ses occupants, noyée dans leurs souvenirs. À partir de là, jusqu'au moment où elle avait guidé le gouverneur et sa compagne hors du labyrinthe enseveli, tout était brumeux, comme dans un songe. Elle venait seulement de comprendre que les marchands du désert des pluies avaient caché Kosgo et Keki pour les protéger. Vraiment ?
Elle jeta un bref coup d'œil à Keki recroquevillée, toute tremblante à l'arrière.
Avait-il été des hôtes qu'on protégeait ou des otages ?
Peut-être un peu des deux.
Elle s'aperçut qu'elle était entièrement du côté des marchands. Elle n'avait qu'une hâte, remettre le gouverneur et sa compagne entre leurs mains. Ils représentaient une précieuse monnaie d'échange entre les nobles jaméliens, les nouveaux marchands et les chalcédiens. Quand elle avait fait la connaissance du gouverneur au cours du bal, elle avait été brièvement éblouie par son pouvoir illusoire.
À présent, elle savait que sa mise élégante et ses manières aristocratiques n'étaient qu'un vernis qui masquait un gamin incapable et vénal. Plus tôt elle serait débarrassée de lui, mieux cela vaudrait.
Elle reporta son regard sur les lumières devant elle. En sortant de la cité ensevelie, il s'était retrouvé bien loin de l'entrée qu'avait empruntée Malta pour pénétrer dans les ruines souterraines. Une grande étendue de fondrières et de bas-fonds marécageux les séparait de la ville. Elle avait attendu la tombée du jour pour partir, en se guidant sur les lumières, dans le vieux canot qu'ils avaient récupéré. Maintenant, l'aube pointait, et elle pagayait toujours en direction des lanternes de Troinous qui leur faisaient signe. Elle espérait ardemment que ces mésaventures touchaient à leur fin. Troinous se nichait parmi les arbres au tronc gigantesque. Les petites pièces pendaient et se balançaient aux branches supérieures, tandis que les salles plus imposantes s'étendaient d'un tronc à l'autre. De grands escaliers montaient en colimaçon, et leurs paliers servaient aux marchands, ménestrels et mendiants. La terre sous la ville était doublement détestable, à cause de ses marécages et de l'instabilité de cette région sujette aux tremblements de terre. Les rares endroits secs formaient des îlots au pied des arbres. Diriger la petite embarcation entre les troncs géants, c'était manœuvrer entre les formidables colonnes d'un temple consacré à un dieu oublié. Le canot heurta de nouveau quelque chose et se coinça. L'eau clapotait contre l'obstacle qui ne semblait pas être une racine.
« Sur quoi sommes-nous échoués ?»
interrogea Malta en regardant devant elle.
Keki ne se retourna même pas, mais resta voûtée sur ses genoux repliés.
Elle paraissait craindre de poser les pieds sur les bordées du fond.
Malta soupira. Elle commençait à se demander si la compagne avait toute sa tête.
Soit les événements de la veille lui avaient fait tourner la raison, soit, se disait Malta avec ironie, elle avait toujours été sotte et il avait suffi d'un sort adverse pour que se manifeste sa bêtise.
Malta déposa sa planche et traversa à croupetons le bateau qui se mit à tanguer. Le gouverneur et Keki poussèrent des cris affolés.
Elle ne leur prêta pas attention.
De près, elle s'aperçut que le canot avait poussé du nez dans un enchevêtrement dense de rameaux, branchages et débris divers, mais, dans l'obscurité, il était malaisé d'en évaluer l'étendue.
Elle supposa que ces débris, entraînés par le courant, s'étaient amassés pour former cette tourbière flottante trop épaisse pour y engager le bateau.
« Il va falloir contourner !»
annonça-t-elle. Elle se mordit la lèvre. Cela signifiait qu'il fallait se risquer plus avant dans le courant du fleuve.
« Eh bien, comme l'avait dit le gouverneur, ce courant les entraînerait vers Troinous. Il se pouvait même que sa tâche ingrate en soit facilitée. » Elle écarta ses craintes. Maladroitement, elle détourna le canot de l'amas de débris et le dirigea vers le chenal principal.
« C'est intolérable !»
s'exclama soudain le gouverneur.
Je suis sale, dévoré par les insectes, j'ai faim, j'ai soif. Tout cela est la faute de ces misérables colons des pluies. Ils ont prétendu m'avoir conduit ici pour me protéger. Mais depuis que je suis en leur pouvoir, j'ai été maltraité. Ils ont offensé ma dignité, compromis ma santé, mis ma vie même en péril. Ils ont sans aucun doute l'intention de me briser, mais je ne céderai pas à leur mauvais traitement. Ils vont sentir tout le poids de mon courroux. Ces marchands du désert des pluies, qui, je m'en rends compte maintenant, se sont installés ici sans qu'on ait reconnu officiellement leur statut. Ils n'ont légalement aucun droit à s'approprier les trésors qu'ils ont déterrés et vendus. Ils ne valent pas mieux que les pirates qui infestent la passe intérieure et devraient être traités en conséquence.
Malta trouva assez de souffle pour grommeler d'un ton moqueur.
Vous n'êtes guère en position d'aboyer sur qui que ce soit. En réalité, vous dépendez bien davantage de leur bienveillance que de la vôtre. Il leur serait ô combien facile de vous vendre au plus offrant, sans se soucier qu'on vous assassine, qu'on vous garde comme otage ou qu'on vous remette sur le trône. Quant à leurs droits sur ces terres, ils leur viennent directement du gouverneur Esclépius, votre aïeul. La charte originale des marchands de Terrilville précise seulement le nombre de lefers qu'un colon est autorisé à s'approprier, et non l'emplacement. Les marchands des pluies ont délimité ce territoire. Les marchands de Terrilville se sont installés dans la baie. Leurs droits sont anciens, honorables et bien répertoriés, conformes aux lois de Jamelia. Au contraire de ces nouveaux marchands que vous nous avez imposés.
Un silence stupéfié accueillit ces paroles. Puis, le gouverneur laissa échapper un rire forcé et aigu.
« Comme c'est drôle de vous entendre les défendre! Quelle petite rustaude! Quel arriéré vous faites! Mais regardez-vous en haillons, crasseuses, défigurées pour toujours par ces renégats! Et vous les défendez quand même! Pourquoi? Oh, laissez-moi deviner! C'est parce que vous savez qu'aucun homme normal ne voudra de vous à présent! « Votre seul espoir est de vous marier avec quelqu'un d'aussi difforme que vous, dans une famille où vous pourrez vous cacher sous un voile afin que personne ne voie votre laideur affreuse. Pitoyable! Sans les agissements de ces rebelles, j'aurais pu vous choisir comme compagne. Davad Restart avait plaidé en votre faveur, et j'ai trouvé que votre maladresse à la danse et à la conversation sentait sa province de charmante façon. Mais maintenant, pouah!
Le canot se balança légèrement quand il secoua la main d'un geste méprisant.
« Rien de plus monstrueux qu'une belle femme défigurée. Les plus grandes familles de Jamelia ne vous vaudraient même pas comme servante esclave. Pareille offense à l'harmonie est impensable dans un foyer aristocratique. »
Malta s'interdit de tourner la tête pour le regarder. Mais elle imaginait sa moue de mépris. Elle aurait dû être furieuse. Il n'était au fond qu'un gosse suffisant et ignorant. Mais elle ne s'était pas vue depuis la nuit où elle avait failli mourir dans l'accident de voiture. Durant sa convalescence à Troisnousses, on lui avait défendu les miroirs. Sa mère et Reine lui-même avaient paru considérer sa blessure comme bénigne. Mais évidemment, lui disait une petite voix perfide, c'était forcé. Sa mère, parce que c'était sa mère, et Reine parce qu'il se sentait responsable de l'accident. Sa cicatrice était-elle si affreuse? À la tâter, elle paraissait longue et irrégulière. Faisait-elle des plis? Lui tirait-elle le visage? Elle étreignit la planche à pleine main et la plongea dans l'eau. Elle ne la lâcherait pas, elle ne se palperait pas la figure, elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Elle serra les dents d'un air menaçant, et continua à pagayer. Après une dizaine de brasses, la petite embarcation gagna de la vitesse, fit une embardée de côté, puis se mit à tourner alors que Malta essayait désespérément de la ramener vers les bas-fonds. Elle déposa sa pagaie de fortune et saisit la planche de secours au fond du canot. « Il va falloir que vous barriez pendant que je pagaie, » dit-elle au gouverneur, le souffle court. « Sinon on va être entraîné au milieu du fleuve. » Il regarda la planche qu'elle lui lança.
« Barré ? »
fit-il en prenant de mauvaise grâce le bout de bois. Malta se força à garder son calme.
Enfoncez cette planche dans l'eau derrière nous. Tenez-la par un bout et servez-vous-en comme un frein pour faire tourner le bateau vers les bas-fonds pendant que je pagaie dans la même direction. »
Le gouverneur tenait la planche dans ses mains fines comme s'il n'avait jamais vu un morceau de bois. Malta saisit sa pagaie, la remit à l'eau, étonnée par la force subite du courant. Elle se cramponnait gauchement à l'extrémité en essayant de résister au flux qui les éloignait du rivage. La lumière matinale les effleura alors qu'ils émergeaient de sous la voûte des arbres. Tout à coup, les rayons du soleil illuminèrent l'eau qui devint aveuglante après l'obscurité.
Elle entendit derrière elle une exclamation irritée et un bruit d'éclaboussement. Elle tourna vivement la tête.
Le gouverneur avait les mains vides.
« L'eau me l'a arraché des mains !»
gémit-il.
« Espèce d'imbécile !»
s'écria Malta.
« Comment va-t-on barrer maintenant ?»
La figure du gouverneur devint noire de fureur.
« Comment osez-vous me parler ainsi ?» « C'est vous l'imbécile de croire que ça nous aurait servi à quelque chose, même pas la forme d'un aviron. D'ailleurs, même si ça avait marché, on n'en a pas besoin. Servez-vous de vos yeux, ma pauvre fille. On n'a rien à craindre. Voilà la ville. Le fleuve va nous y conduire directement. »«
Ou nous en éloigner ?»
cracha Malta. Elle se détourna, écœurée, pour concentrer ses forces et ses pensées sur sa lutte d'une seule main avec le fleuve. Elle leva brièvement les yeux vers le spectacle impressionnant qu'offrait Troynous. Vue de dessous, la cité flottait dans les arbres immenses comme un château à tourelles multiples. Au niveau de l'eau, un quai s'étendait, attaché à un alignement d'arbres. Le Kendry y était amarré, mais la proue de la vive nef ne leur faisait pas face. Malta ne pouvait seulement pas apercevoir la vivante figure de proue. Elle pagaya avec frénésie.
Quand nous approcherons,
haleta-t-elle entre deux coups,
appelez au secours. Le navire peut nous entendre, ou des gens sur le quai. Même si on est entraîné plus loin, ils nous enverront du secours.
Je ne vois personne sur le quai,
déclara le gouverneur d'un ton railleur.
En fait, je ne vois personne nulle part. Bande de fainéants qui traînent au lit.
Personne ?
Souffla Malta. La force lui manquait pour cet ultime effort. La planche qu'elle maniait sautait, rebondissait sur l'eau. Ils étaient peu à peu entraînés plus loin sur le fleuve. Elle leva les yeux vers la ville. Toute proche, plus proche que tout à l'heure. Et le gouverneur avait raison. Hormis la fumée qui s'échappait de quelques cheminées, Troynous paraissait déserte. Elle sentit sourdre en elle une sinistre impression, un profond malaise. Où étaient-ils tous passés ? Qu'en était-il de l'animation habituelle sur les passerelles et dans les escaliers ?«
Kendry !»
appela-t-elle. Mais son cri haletant était faible et les eaux impétueuses du fleuve l'emportèrent au loin. La compagne Keki parut subitement comprendre ce qui se passait.
« Au secours ! Au secours !»
glapit-elle d'une petite voix aiguë, enfantine. Elle se leva imprudemment dans le canot en agitant les mains.
« Au secours ! À l'aide !»
Le gouverneur jura tandis que le bateau tanguait follement. Malta se précipita sur elle et la tira au fond, manquant lâcher sa pagaie. Un coup d'œil circulaire lui fit comprendre que la planche était désormais pratiquement inutile. La petite embarcation était entraînée pour de bon par le courant et s'éloigna rapidement de Troynous.
« Kendry, au secours, là, sur le fleuve, envoie-nous du secours, Kendry, Kendry !»
Ses cris se perdaient, affaiblis par le sentiment d'impuissance qui la terrassait. La vive nef ne manifesta d'aucune façon qu'elle entendait. Un instant après, Malta se retournait pour la regarder. Apparemment absorbée dans une profonde rêverie, la figure de proue faisait face à la cité. Malta aperçut sur une passerelle une silhouette isolée qui se hâtait et ne tourna pas la tête.
« Au secours, au secours !»
Elle continua à crier et à agiter sa planche jusqu'à ce qu'elle perde bientôt la cité de vue. Les arbres qui surplombaient le fleuve la masquèrent bientôt à ses yeux. Le courant les chassait en avant. Elle s'assit, silencieuse, vaincue. Malta examina ce qui l'entourait. Ici, le fleuve du désert des pluies était large et profond, la rive opposée presque noyée dans une brume perpétuelle.
Le ciel était bleu, frangé des deux côtés par l'écrasante forêt. On ne voyait rien d'autre, ni vaisseau, ni trace de vie humaine le long des berges. Alors que le courant les emportait inexorablement loin des rives marécageuses, les espoirs de secours diminuaient. En admettant même qu'elles parviennent à diriger leur petite embarcation vers le bord, ils seraient irrémédiablement perdus. Les rives du fleuve des pluies n'étaient que bourbiers et tourbières. Rejoindre Troynous par voie de terre était impossible. Ses doigts gourds laissèrent tomber la planche au fond du canot.
« Je crois que nous allons mourir, »
dit-elle tranquillement.
Kefria avait atrocement mal à la main. Elle serra les dents et se força à reprendre les brancards de la brouette que les terrassiers venaient de charger. Quand elle la souleva et commença à la pousser lentement le long du couloir, la douleur décupla. Elle s'en réjouit. Cette douleur, elle la méritait. Ses arêtes tranchantes la distrayaient presque de la brûlure qui lui rongeait le cœur. Elle les avait perdus, ses deux plus jeunes enfants, disparus en une nuit. Elle était absolument seule au monde. Elle s'était raccrochée au doute aussi longtemps que possible. Malta et Selden n'étaient pas à Troynous. Personne ne les avait vus depuis la veille. Un camarade de Selden en larmes avait avoué entre deux sanglots qu'il avait montré au garçon un accès à l'ancienne cité, une entrée que les grandes personnes croyaient bien verrouillée. Yannir Houprous n'avait pas mâché ses mots. Blême, les lèvres pincées, elle avait appris à Kefria que ce passage avait été abandonné parce que Rein lui-même le jugeait dangereux. Si Selden s'était introduit dans les corridors ensevelis, s'il y avait entraîné Malta, alors ils avaient pénétré dans la section la plus exposée aux éboulements. Il y avait eu au moins deux fortes secousses depuis l'aube. Kefria avait perdu le compte des tremblements plus faibles qu'elle avait sentis. Quand elle avait supplié qu'on envoyât les terrassiers dans cette direction, on avait découvert que le passage tout entier s'était effondré à quelques pas à peine de l'entrée. Il ne lui restait plus qu'à prier ça, que ses enfants soient parvenus avant le séisme à une partie plus résistante de la cité, qu'ils soient bien blottis ensemble quelque part en escomptant du secours. Rein Houprous n'était pas revenu. Avant midi, il avait quitté les terrassiers, refusant d'attendre que les couloirs fussent dégagés et étayés. Il avait précédé les équipes de travail, s'était faufilé dans une galerie à demi éboulée et avait disparu. Tout à l'heure, les ouvriers avaient atteint l'extrémité de la ligne qu'il avait tracée pour marquer son chemin. Ils avaient découvert des signes à la craie, y compris la note qu'il avait inscrite sur la porte de la chambre du gouverneur. « Inutile » était-il inscrit. Une vase épaisse filtrait de dessous la porte bloquée. Il était plus que probable que la pièce en était remplie. Un peu plus loin, le couloir s'était entièrement effondré. Si Rein n'était passé par là, il avait été écrasé ou il était prisonnier sous les éboulis. Kefria sursauta. On lui avait effleuré le bras. Elle se retourna pour faire face à une Yannir Houprous hagarde.
« Vous avez trouvé quelque chose ?»
demanda-t-elle machinalement.
« Non. »
Yanni prononça le mot terrible avec douceur. L'angoisse qu'elle éprouvait quant au sort de son fils était fixée dans ses yeux. Le couloir se remplit de vases à mesure qu'on essaie de le dégager. Nous avons décidé de l'abandonner. Les anciens ne construisaient pas comme nous, avec des maisons séparées les unes des autres. Leur cité ressemble plutôt à une gigantesque ruche. C'est un labyrinthe de passages qui s'entrecroisent. Nous allons tâcher d'atteindre cette partie-là par un autre chemin. Les équipes ont déjà été déplacées. Kefria regarda sa brouette chargée puis le couloir qu'on venait de fouiller. Le travail avait cessé. Les ouvriers remontaient à la surface.
Un flux de gens sales, fourbus, se sépara autour d'elle. Des visages gris de terre découragés, ils traînaient les pieds. Les lanternes et les torches dégoûtaient et fumaient. Derrière eux, le passage était plongé dans le noir. Tout ce travail pour rien, alors ? Elle inspira.
« Où allons-nous creuser maintenant ? »
demanda-t-elle à mi-voix. Yanni lui adressa un regard hanté. « Il a été décidé qu'on se repose un peu. Un repas chaud et quelques heures de sommeil nous feront du bien à tous. »
Kefria la dévisagea incrédule. « Manger ? Dormir ? Comment est-ce possible alors que nos enfants ont disparu ?»
D'un air détaché, la femme du désert des pluies prit la place de Kefria entre les brancards de la brouette. Elle la souleva et se mit à la pousser. Sa compagne la suivit à contre-cœur. Yanni ne répondit pas directement à la question.
Nous avons lâché des oiseaux vers les colonies voisines. Les fourrageurs et les moissonneurs vont nous envoyer du renfort. Ils sont en chemin, mais il leur faudra un certain temps pour arriver ici. Ces bras vigoureux vont nous soutenir le moral. »
Elle ajouta par-dessus son épaule.
« Nous avons des nouvelles des autres équipes. Et ils ont eu plus de chance. 14 personnes ont été sauvées dans une partie qu'on appelle les tapisseries et 3 autres dans les couloirs des joyaux de flammes. Leur travail a progressé plus vite. On pourra peut-être accéder à cette partie-ci à partir de l'un ou de l'autre de ces endroits. » Bendir est en train de se renseigner auprès de ceux qui connaissent le mieux les lieux.
Je croyais que Reyn connaissait la cité mieux que personne,
dit Kefria avec cruauté.
En effet, il la connaissait.
Il la connaît.
C'est pourquoi je me raccroche à l'espoir qu'il soit encore vivant.
La marchande des pluies jeta un bref coup d'œil à son homologue de Terrilville.
« C'est pourquoi je crois que si quelqu'un peut trouver Malta et Selden, c'est Reyn. S'il les a trouvés, il ne tentera pas de revenir par le même chemin, mais il se dirigera vers les parties les plus solides de la cité. J'espère à chaque minute que quelqu'un arrive en courant nous annoncer qu'ils sont sortis par eux-mêmes. »
Elles étaient parvenues à une grande salle qui ressemblait à un amphithéâtre. Les ouvriers y avaient amassé les gravats. Yanni inclina la brouette et déversa le chargement de terre et de pierre sur le tas au milieu de la salle jadis superbe. La brouette rejoignit une rangée d'autres. Des pelles boueuses et des pioches étaient entassées dans un coin. Kefria sentit alors une odeur de soupe, de café et de pain chaud. La faim qu'elle avait niée se réveilla brutalement. La subite protestation de son corps lui rappela qu'elle n'avait rien mangé de toute la nuit.
« Est-ce l'aube ? » demanda-t-elle. « Quelle heure est-il ? »
Le jour s'est levé depuis longtemps, je crois. Le temps file très vite quand on voudrait qu'il passe lentement.
À l'autre extrémité de la salle, on avait installé des tréteaux et des bancs. Les vieillards et les très jeunes enfants avaient travaillé ici à remplir les soupières, à entretenir de petits braseros sous des chaudrons bouillants, à dresser le couvert et à débarrasser. Les murmures découragés se perdaient dans l'immense salle. Une fillette d'une huitaine d'années s'avança précipitamment avec une bassine d'eau fumante, une serviette jetée sur le bras.
« Vous voulez vous laver ? »
proposa-t-elle.
« Merci. »
Yanni montra la bassine à Kefria. Elle se nettoya les mains et les bras et s'aspergea la figure. Elle se rendit compte à la chaleur de l'eau à quel point elle avait froid. Le bandage de ses doigts cassés était trempé et souillé.
« Il va falloir le changer, »
fit remarquer Yanni, tandis que sa compagne s'essuyait. La marchande des pluies se lava à son tour et remercia une nouvelle fois l'enfant avant de conduire Kefria vers les tables où les guérisseurs exerçaient leur art. Certains se contentaient d'appliquer du baume sur les ampoules ou massaient les dos endoloris, mais d'autres traitaient les blessures et les fractures. Le déblaiement du couloir était un travail dangereux. Yanni installa Kefria à une table pour attendre son tour. Un guérisseur était en train de refaire son pansement quand Yanni revint avec du pain frais, du café et de la soupe pour elles deux. L'homme de l'art acheva promptement le bandage, informa avec brusquerie la marchande qu'elle était exclue de l'équipe de travail et passa au patient suivant.
Il faut manger un peu,
insista Yanni.
Kefria prit la chope de café. La chaleur entre ses paumes était étrangement réconfortante. Elle but une longue gorgée. En reposant la tasse, elle parcourut l'amphithéâtre des yeux.
« Tout est si bien organisé, »
fit-elle interdite, « comme si vous vous attendiez à l'événement que vous aviez prévu. »«
En effet, » dit Yanni à mi-voix.
Cet effondrement n'a d'exceptionnel que son ampleur. Une bonne secousse ne provoque d'ordinaire que quelques affaissements. Parfois, un couloir s'affaisse sans raison apparente. Mes deux oncles sont morts dans un éboulement. Presque toutes les familles qui exploitent la cité perdent un membre ou deux là-dessous à chaque génération. C'est une des raisons pour lesquelles mon mari, Sterb, a tellement insisté auprès du Conseil des marchands afin qu'on l'aide à développer d'autres sources de profit. On a prétendu qu'il ne considérait que son propre intérêt. En tant que cadet, il n'a guère droit à la fortune de famille. Moi, je crois vraiment que ce n'est pas l'intérêt, mais au contraire l'altruisme qui le pousse à travailler aussi dur pour développer les avant-postes des fourrageurs et des moissonneurs. Il affirme que le désert des pluies pourrait pourvoir à tous nos besoins si nous voulions bien ouvrir nos yeux à la richesse de sa forêt. Elle plissa les lèvres et secoua la tête. Pourtant, cela n'arrange rien quand il dit « Je vous avais prévenu » lors d'événements de ce genre. La plupart d'entre nous refusons d'abandonner la cité enterrée pour l'abondance de la forêt. Les fouilles, l'exploration, nous ne connaissons que cela. Nous faisons face aux dangers que représente un séisme de ce genre, tout comme vos familles qui font commerce en naviguant savent qu'elles finiront un jour ou l'autre par y perdre un de leurs membres.
C'est inévitable,
concéda Kefria. Elle prit une cuillère et se mit à manger. Après quelques bouchées, elle s'arrêta. En face d'elle, Yanni posa sa chope de café.
« Qu'y a-t-il »
demanda-t-elle à mi-voix. Kefria se tenait parfaitement immobile.
« Si mes enfants sont morts, qui suis-je ? »
Un calme glacé l'envahit.
« Mon mari et mon fils aîné ont disparu, pris par les pirates, peut-être déjà morts. » Ma sœur unique est partie à leur recherche. Ma mère est restée à Terrilville alors que j'ai fui. J'ignore ce qu'elle est devenue. Je ne suis venue ici que pour sauver mes enfants. Et maintenant, ils ont disparu aussi, et sont peut-être déjà morts. Si je suis la seule survivante...
Elle s'interrompit, incapable d'envisager cette éventualité dont la monstruosité l'accablait. Yanni lui adressa un étrange sourire.
Kefria Vestrit. Mais hier encore, vous étiez volontaire pour laisser vos enfants à mes bons soins, retourner à Terrilville et espionner les nouveaux marchands pour notre compte. Il me semble qu'alors, vous saviez parfaitement qui vous étiez en dehors de votre rôle de mère et de fille.
Kefria appuya les coudes sur la table et posa la tête dans ses mains.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en suis puni. Si ça a jugé que je faisais trop peu de cas de mes enfants, se peut-il qu'il me les ait enlevés?
Peut-être. Si ça n'avait qu'un aspect masculin.
Mais rappelez-vous l'ancien, le véritable culte de ça. Hommes et femmes, oiseaux, bêtes et plantes, terre, feu, air et eau, tous sont honorés en ça, et ça se manifeste dans chacun d'eux. Si le divin est aussi féminin, et le féminin divin, alors elle comprend que la femme est plus qu'une mère, plus qu'une fille, plus qu'une épouse. Ce sont les facettes d'une vie pleine. Une seule facette ne définit pas le joyau.
Cet antique enseignement, autrefois si réconfortant, à présent sonnait creux à ses oreilles. Mais les pensées de Kefria ne s'y attardèrent pas. Un grand brouhaha à l'entrée de la salle leur fit tourner la tête.
« Ne bougez pas et reposez-vous, »
conseilla Yanni. « Je vais voir de quoi il s'agit. » Mais Kefria ne lui obéit pas.
«
Comment pouvait-elle rester assise en se demandant si l'agitation était causée par des nouvelles de Rain, de Malta ou de Selden? Elle s'écarta de la table et suivit la marchande des pluies. Des terrassiers, las et dépenaillés, étaient groupés autour de quatre jeunes gens qui venaient de jeter leurs seaux d'eau par terre.
« Un dragon! Un immense dragon argenté, je vous dis! Il a volé juste au-dessus de nous !»
Le plus grand s'exprimait comme s'il défiait les autres de le croire. Certains ouvriers paraissaient perplexes, d'autres indignés par cette fable insensée.
« Il ne ment pas, c'est vrai, il était réel, si brillant que je pouvais à peine le regarder. Mais il était bleu, d'un bleu étincelant !»
corrigea un plus jeune.
« Bleu argent !»
renchérit un troisième.
« Et plus grand qu'un navire !»
La seule fille du groupe gardait le silence, mais ses prunelles brillaient d'émotion. Kefria lança un regard à Yanni, s'attendant à lire l'irritation dans ses yeux. Comment ces jeunes gens avaient-ils le front de débiter de telles sornettes à un moment où des vies étaient en jeu? Mais la marchande des pluies avait pâli. Et les fines squames autour de ses paupières et de ses lèvres ressortaient sur son visage.
« Un dragon ?» balbutia-t-elle. « Vous avez vu un dragon ?»
Devinant une oreille bienveillante, le plus grand des garçons fendit la foule pour s'avancer vers Yanni.
« C'était un dragon, pareil à ceux qu'il y a sur les fresques. Je n'invente pas un marchand de Rouprousse. Quelque chose m'a fait lever la tête et il était là. Je n'en croyais pas mes yeux. Il volait comme un faucon. Non, non, comme une étoile filante. Il était tellement beau !»«
Un dragon ?»
répéta Yanni, l'air hébété.
« Mère !»
Bendir était si sale que Kefria eut peine à le reconnaître quand il fendit la foule. Il jeta un coup d'œil au garçon qui se tenait près de Yanni, puis il dévisagea sa mère frappée de saisissement.
« Alors, tu as entendu? Une femme qui s'occupait des bébés a envoyé un garçon nous raconter ce qu'elle avait vu. Un dragon bleu !»«
Serait-ce possible ?»
demanda Yanni d'une voix entrecoupée.
« Se pourrait-il que Rain ait eu raison? Qu'est-ce que cela signifie ?»«
Deux choses, »
répondit Bendir laconiquement.
« J'ai expédié des éclaireurs par voie de terre, à l'endroit où, selon moi, la créature est sortie de la cité. D'après la description qu'on en a, elle est trop grande pour avoir emprunté les galeries. Elle a dû s'échapper par la salle du coq couronné. On a une idée approximative de l'endroit où elle se situe. Il y a peut-être une trace de Rain là-bas. Il se peut en tout cas qu'on trouve un autre moyen de pénétrer dans la cité pour y chercher d'éventuels rescapés. »
Des murmures s'élevèrent à ces mots. Certains exprimaient l'incrédulité, d'autres l'étonnement. Il haussa la voix pour être entendu de tous.
« Et deuxièmement, nous devons nous rappeler que cette bête est peut-être notre ennemi. »
Le garçon à côté de lui commença à protester, mais Bendir le prévint.
« Aussi beau qu'il soit, le dragon peut vouloir nous nuire. Nous ne savons pratiquement rien de la vraie nature des dragons. Ne faites rien pour l'exciter, mais ne tentez pas pour acquis qu'il est la créature bienveillante représentée sur les fresques et les mosaïques. N'attirez pas son attention. »
Le tumulte s'éleva dans la salle. Kefria secoua désespérément la manche de Yanni. Elle demanda à travers le vacarme,
« Si vous trouvez Rain là-bas, vous croyez que Malta peut être avec lui ?»
Yanni croisa son regard avec franchise.
« C'est ce qu'il redoutait, que Malta soit allée dans la salle du coq couronné, auprès du dragon qui y dormait. »
Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Vous croyez qu'il va revenir ?
Le garçon chuchotait, autant de faiblesse que d'émerveillement. Rain se retourna. Selden était accroupi sur un îlot de gravats amassé sur la boue. Il avait les yeux levés vers la lumière au-dessus de leur tête, transfiguré par le spectacle auquel il venait d'assister. Le dragon, enfin délivré, avait disparu. Il était déjà loin, hors de vue, mais le garçon continuait à regarder.
« Je ne crois pas qu'il faille compter sur lui pour nous sauver. C'est à nous de nous débrouiller, »
déclara Rain avec pragmatisme. Selden secoua la tête.
« Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il n'a sûrement pas fait très attention à nous. Je sais qu'il va falloir qu'on se sorte de là tout seul, mais j'aimerais le revoir juste une fois. Une telle merveille, une telle joie. »
Il leva les yeux à nouveau vers le plafond crevé. Malgré la crasse et la boue qui striaient son visage et empesaient ses vêtements, il était radieux. Le soleil se déversait dans la salle en ruine, apportant une faible lumière, mais guère de chaleur. Rain avait oublié comment on se sentait quand on était sec. Quant à avoir chaud, la faim et la soif le torturaient. Il devait se forcer pour bouger, mais il souriait. Selden avait raison. Une merveille. Une joie. Le dôme de la salle du coq couronné était craquelé comme la pointe d'un œuf à la coque. Debout sur des débris, il levait les yeux vers les racines pendantes et la petite fenêtre de ciel. Le dragon s'était échappé par là, mais Rain doutait qu'ils puissent tous deux faire de même. La salle se remplissait rapidement de vases. Le marécage s'infiltrait peu à peu, reprenant possession de la cité qu'il avait si longtemps défiée. Le flot de boue et d'eau glacée allait les engloutir bien avant qu'ils ne trouvent un moyen d'atteindre l'issue au-dessus d'eux. Pourtant, aussi sombre que parut la situation, ils continuaient de s'émerveiller en songeant au dragon qui avait émergé de ces siècles d'attente. Les fresques et les mosaïques qu'il avait vues toute sa vie ne l'avaient pas préparé à la réalité du dragon. Le mot « bleu » avait acquis une nouvelle signification quand il revoyait la brillance de ses écailles. Il n'oublierait jamais comment ses ailes flasques avaient pris force et couleur. La puanteur reptilienne de sa métamorphose flottait encore, lourde, dans l'air humide. Il n'apercevait aucun vestige du fût de bois sorcier qui l'avait enrobé. Il semblait que le dragon l'eût absorbé en entier durant le processus de sa transformation. Mais à présent, il avait disparu, et le problème de leur survie demeurait entier. Le tremblement de terre de la nuit précédente avait ouvert une brèche dans les murs et les plafonds de la cité enterrée. Les marais s'épanchaient dans cette salle. La seule issue, une fenêtre de ciel bleu très haut au-dessus de leur tête, les narguait cruellement. La boue qui bouillonnait avec des bruits mouillés autour du fragment de plafond sur lequel se tenait Rain finit par triompher en engloutissant les arêtes de cristal et en glissant vers ses pieds nus.
« Rain !»
dit Selden d'une voix enrouée par la soif. Le petit frère de Malta était penché sur un îlot de débris qui s'enfonçait lentement. Dans les efforts frénétiques qu'il avait déployés pour s'échapper, le dragon avait fait dégringoler dans la salle des moellons, de la terre et même un arbre qui flottait encore sur le flux montant de vases. Le gamin fronça les sourcils, l'esprit pratique qui lui était naturel s'imposait de nouveau à lui.
« Peut-être que si on soulevait cet arbre, qu'on le plaquait contre le mur, on pourrait y grimper et... »«
Je ne suis pas assez fort, » dit Rain, entamant l'optimisme du garçon. « Et à supposer que j'ai la force de le redresser, la vase est trop molle. Mais on pourrait peut-être les brancher... » et construire une sorte de radeau. Si on étale suffisamment notre poids, on pourra se maintenir dessus. Selden jeta un regard plein d'espoir vers le trou d'où filtrait la lumière.
Vous croyez que la boue et l'eau, en remplissant la salle, vont nous faire monter jusque là-haut?
Peut-être, dit Rain en mentant avec conviction. Il présumait que le flot de vase se tarirait bien avant de remplir toute la salle. Ils allaient probablement périr engloutis. Ou bien ils finiraient par mourir d'inanition. La plaque du dôme sous ses pieds s'enfonçait rapidement. Il était temps de l'abandonner. Il sauta sur un monticule de terre et de mousse qui plongea aussitôt sous son poids. La vase était plus molle encore qu'il ne pensait. Il s'élança vers le tronc d'arbre, s'agrippa à une branche et se hissa pour y grimper. La bourbe, qui avait la consistance d'une bouillie, montait au moins à hauteur de la poitrine à présent. S'il y sombrait, il mourrait dans une étreinte glacée. Et il s'était rapproché de Selden. Il tendit une main vers le garçon qui bondit de son îlot, manqua son saut et se débattit dans la vase pour l'atteindre. Rain le tira sur le tronc. Le gamin se blottit contre lui en grelottant. La boue plaquait ses vêtements sur son corps, lui striait les joues et les cheveux. « Si seulement j'avais mes outils et mon équipement, englouti depuis longtemps maintenant,
On va tâcher de casser ces branches et les empiler pour faire une natte épaisse.
Je suis tellement fatiguée.
C'était une constatation, non une plainte. Il jeta un coup d'œil à Reine, puis le dévisagea plus attentivement.
Vous n'êtes pas si moche que ça, même de près. Je me suis toujours demandé à quoi vous ressembliez sous votre voile. Dans les galeries, avec la chandelle, je n'ai pas vu votre figure. Et cette nuit, quand vos yeux flamboyaient tout bleus, j'ai d'abord eu très peur. Mais au bout d'un moment, c'était bien de les voir et de savoir que vous étiez toujours là.
Reine se mit à rire de bon cœur. Mes yeux flamboient. D'habitude, chez les gens du désert des pluies, ça n'arrive que beaucoup plus tard. Nous l'acceptons comme le signe de la pleine maturité.
Oh, mais à la lumière du jour, vous avez l'air presque normal. Vous n'avez pas tellement de ces trucs qui tremblotent. Seulement quelques écailles autour des yeux et de la bouche.
Selden le dévisageait avec franchise. Rain lui adressa un grand sourire.
Non, je n'ai pas encore de ces trucs qui tremblotent. Mais ça aussi, ça peut venir quand je serai plus vieux.
Malta avait peur que vous soyez tout couvert de verrues. Elle avait des amis qui la taquinaient là-dessus, et elle se fâchait, mais...
Selden parut soudain se rendre compte qu'il manquait de tact.
D'abord, c'est-à-dire quand vous avez commencé à lui faire la cour, ça l'a vraiment tracassé, mais après, elle n'en a plus beaucoup parlé,
ajouta-t-il pour le rassurer. Il lui jeta un coup d'œil puis avança sur le tronc. Il attrapa une branche, la tira.
Ça va être dur à casser.
Je suppose qu'elle avait autre chose en tête, marmonna Reine. Les paroles du gamin l'avaient navré. Son apparence était-elle donc si importante pour Malta? L'aurait-il conquise par ses actions seulement pour la voir se détourner de lui quand elle aurait découvert son visage? Une pensée amère lui vint à l'esprit. Peut-être était-elle déjà morte, et il ne saurait jamais. Peut-être allait-il mourir, et elle ne verrait jamais son visage.
« Reine !»
La voix de Selden était hésitante.
« Il faudrait s'y mettre, non ? »
Celui-ci s'aperçut alors subitement qu'il était resté longtemps ainsi, accroupé et en silence. Il était temps de chasser ses vaines idées et tâcher de survivre. Il saisit une branche hérissée d'aiguilles et en rompit un rameau. N'essaie pas de casser une branche entière d'un coup. Retire d'abord les rameaux. On va les entasser là. Il faut les tresser, comme si on faisait un toit de chaume. Une nouvelle secousse l'interrompit. Il se cramponna désespérément au tronc d'arbre, tandis qu'une pluie de terre dégringolait du plafond béant. Selden poussa un cri aigu et leva les bras pour se protéger. Rain s'avança à quatre pattes sur le tronc pour le rejoindre et l'abriter de son corps. La porte de la salle gémit et s'affaissa brusquement sur ses gonds. Un flot de boue et d'eau s'engouffra dans la pièce.